Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi, nous sommes le 10 avril. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, placé en garde à vue hier pendant près de 10 heures. Nous reviendrons sur cette garde à vue dans ce quart d'heure lyonnais. La réforme du scrutin Paris-Lyon-Marseille a été adoptée par les députés. Le projet d'étude sur la bio-imprégnation au PFAS porté par l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer se heurte à un obstacle majeur, son financement. Le chantier n'est pas passé inaperçu. Place Bellecour, l'œuvre éphémère Tissage urbain, qui a pour objectif d'apporter un peu d'ombre, est en cours de montage. Nous parlerons également de la centrale hydroélectrique de Couzon-au-Mont-d'Or. Reportage sur place d'Inès Crémy.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a été placé en garde à vue hier dans une affaire de détournement de fonds publics. Une garde à vue programmée qui a duré près de 10 heures. L'élu s'est présenté vers 8 heures à la police, au commissariat Marius Berlier, dans le 8e. Le dossier concerne une période qui va de 2016 à 2024, sous les mandatures de Gérard Collomb, décédé en 2023, Georges Képenikian, La République En Marche, placé mardi en garde à vue lui aussi, puis Grégory Doucet. La justice s'interroge sur un possible maquillage d'emplois politiques derrière des fonctions de 24 chargés de mission. Un rapport de la Chambre régionale des comptes est à l'origine de la procédure. Une information judiciaire ouverte le 7 février 2024, confiée à 3 juges d'instruction, une perquisition à la mairie centrale, c'était le 12 mars, il y a tout juste un an, et donc des gardes à vue cette semaine. À la sortie du commissariat, Grégory Doucet est apparu relativement serein.
Ces 24 personnes sont des agents de la collectivité, qui travaillent pour la collectivité, ça veut dire qu'ils travaillent pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Et ce sont des agents qui rendent un service public et qui sont à l'interface du travail, enfin de l'engagement des élus et du travail des différents services. Ils sont notamment en charge du suivi des politiques publiques. Le suivi des politiques publiques, c'est essentiel. Parce que pour que nous puissions, nous élus, être redevables à l'égard de la population, sur les différents chantiers que nous avons engagés, les différentes politiques publiques que nous avons déployées, eh bien, il faut faire un suivi. D'ailleurs, d'ici quelques semaines, j'aurai l'occasion d'aller vers les Lyonnaises et les Lyonnais pour présenter le bilan de cette mandature. Et justement, grâce au travail de suivi des politiques publiques qui est réalisé notamment par ces agents, eh bien, je serai capable de vous dire quel est le pourcentage de réalisation, quel est le pourcentage de projets engagés, quel est le pourcentage de projets qui peut-être n'auront pas été réalisés à l'issue de ce mandat. Tout ça, ce travail de redevabilité, c'est du travail. C'est tous les jours des agents qui collectent de l'information, qui compilent toutes ces informations, qui en font des rapports. Tout ça est suivi en plus dans un logiciel à la ville de Lyon. Donc c'est vraiment un boulot du quotidien qui permet l'exercice de la redevabilité. Et la redevabilité, c'est un service public.
C'est pour le public, pas pour vous, autrement dit.
Bien sûr, c'est pour le public, assurément. C'est pour les Lyonnaises et les Lyonnais que ce travail est réalisé.
Grégory Doucet s'est dit heureux d'avoir été entendu, d'avoir contribué à la justice. Des investigations qui vont se poursuivre sous l'autorité des juges d'instruction. D'anciens cadres de la mairie, notamment des anciens directeurs de cabinet, ont également été entendus par la police dans le dossier. Le sénateur Étienne Blanc, LR, certifie avoir au préalable tiré la sonnette d'alarme auprès du maire sur un risque juridique lié à ses chargés de mission avant de confier ses doutes à la Chambre régionale des comptes. La réforme du scrutin Paris-Lyon-Marseille a été adoptée par les députés. L'article 1er prévoit d'instaurer 2 scrutins distincts pour les 3 métropoles. L'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour élire ceux du conseil municipal sur une circonscription unique. Le texte doit maintenant passer au Sénat. Le projet d'étude sur la bio-imprégnation au PFAS porté par l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer et la métropole de Lyon se heurte à un obstacle majeur. La demande de financement soumise à l'Agence nationale de la recherche a été rejetée, citant l'incompréhension et la colère des porteurs du projet. L'étude d'un budget estimé à 1,5 million d'euros vise à analyser les prélèvements sanguins sur 300 personnes vivant dans les zones touchées par la pollution au per- et polyfluoroalkylés, les PFAS. Le projet de la demande de financement laisse un manque à combler de 750 000 euros. Face à cette situation, l'Institut éco-citoyen multiplie les démarches pour trouver d'autres sources de financement auprès des ministères ou lors de crowdfunding par exemple, et n'exclut pas non plus une participation des communes impactées. L'équipe envisage également de soumettre une nouvelle demande à l'ANR si nécessaire. La grève se poursuit à l'IHOP. Les personnels de l'unité R2 de l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique doivent à nouveau être reçus par leur direction ce jeudi. Mardi, une première réunion de négociation avait échoué. Les personnels demandent notamment des effectifs suffisants, la réduction des heures supplémentaires et la reconnaissance financière de leur engagement avec une prime de 300 euros. L'œuvre éphémère Tissage urbain, qui a pour objectif d'apporter un peu d'ombre sur la place Bellecour, est en cours de montage. Les travaux ont commencé en début de semaine. Cette énorme installation devrait apporter de l'ombre et faire baisser la température de 4 degrés. Inspirée de la forme des métiers à tisser des canuts avec des supports en bois, les arches qui soutiendront le tissu reposeront sur les plots qui viennent d'être déposés sur la place Bellecour. Les toiles qui abriteront les promeneurs doivent résister au vent et à la pluie. Savez-vous d'où vient une partie de votre électricité ? En Auvergne-Rhône-Alpes, l'accent est mis sur les énergies renouvelables et principalement l'hydroélectricité. À quelques kilomètres de Lyon se trouve d'ailleurs la centrale hydroélectrique de Couzon-Mont-d'Or. Inès Crimi nous emmène sur place.
Faites attention, des fois ça arrose un petit peu.
De l'énergie produite localement et de manière plus durable. Installée sur la Saône, la centrale hydroélectrique de Couzon-au-Mont-d'Or nous a ouvert ses portes, l'occasion de revenir à la source de l'électricité notamment utilisée dans la région. Cette centrale est un bel exemple de ce qu'est la petite hydroélectricité, puisqu'elle n'est pas si grande que ça. Une salle de contrôle, des transformateurs et le clou du spectacle, un alternateur pour transformer l'eau en énergie.
On va rentrer dans les groupes. Ce qu'on va faire pour ceux qui voulaient, vous allez voir, on peut faire le tour. On va voir l'alternateur, la grosse pièce blanche. Et si vous voulez, vous pouvez descendre juste à un endroit pour aller mieux voir un petit peu le. On devine le dôme et on voit l'arbre de la turbine qui tourne.
Si on ne voit que l'extrémité de la turbine car le reste est enfoui à 8 mètres sous l'eau, on entend et ressent bien les vibrations de l'alternateur. L'hydroélectricité est la première source d'énergie renouvelable en France et la région Auvergne-Rhône-Alpes en est également la première région productrice. Pour cette centrale en particulier, la société Hydralp Invest en est l'exploitant. Son directeur général William Dufour nous explique son fonctionnement.
Alors ici, oui, on est sur un barrage VNF, donc la première des utilités de ce barrage-là, c'est la navigation. Donc en fait, voilà, ça c'est piloté par Voie Navigable de France. On est en relation constante avec eux et on doit tenir des codes de niveau d'eau. Alors on appelle ça les codes de niveau d'eau, hein, c'est là vraiment le niveau de l'eau, en amont, en aval. Et on doit rester dans un petit bandeau de 10 cm. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut surtout pas qu'on perturbe la navigation, qui est la priorité de ce barrage.
Et comment ça fonctionne, une centrale concrètement hydroélectrique ?
Donc on a une chute d'eau, on l'imagine bien, quand on est sous une cascade d'eau, on sent la force de l'eau qui nous tombe sur les épaules. Là, c'est un petit peu la même chose, on crée une hauteur de chute. Là, il y a 4 mètres de chute d'eau et on profite de cette chute, on appelle ça l'énergie potentielle de l'eau. On récupère cette énergie-là, qu'on transforme en énergie mécanique, puis ensuite en énergie électrique via un alternateur qu'on revend sur le réseau. On est équipé à 109 mètres cubes secondes pour une puissance de 4 MW. Ça correspond à peu près à 3700 foyers partout en France.
Et en quoi c'est intéressant de produire de l'électricité avec notamment des centrales hydroélectriques plutôt que d'autres énergies ?
Alors c'est un complément d'énergie, toutes les énergies renouvelables sont différentes. L'hydroélectricité en fait elle a pas mal d'avantages, c'est que l'eau est prévisionnelle dans une certaine mesure, on arrive à plusieurs heures, voire parfois un ou deux jours d'avance à avoir une prévision des débits de la rivière, donc de la production qu'on va faire. On ne consomme pas d'eau, on ne consomme aucune eau, on restitue 100% de l'eau à l'amont, à l'aval. C'est assez durable comme énergie, on n'a pas de métaux rares. C'est vraiment que de la mécanique simple, faite par des entreprises très souvent locales, de génie civil local. Les turbiniers sont souvent français ou européens. On ne va jamais trop au-delà de l'Europe. Donc c'est quand même assez vertueux.
Vous expliquiez tout à l'heure qu'il y avait un petit peu des rénovations qui avaient été faites. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
On sort les turbines. Tous les 10 à 15 ans, à peu près, on fait une rénovation complète des machines. C'est un peu comme votre moteur de voiture. Régulièrement, vous faites de la vidange. C'est la petite maintenance. Bon, c'est ce qu'on fait, nous, régulièrement en interne. Et puis après, il y a la grosse vidange. Donc là, c'est on sort le moteur de la voiture, on le révise et on le redépose. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. C'est à peu près 6 mois de travaux, à peu près, entre le démontage et le remontage. Et là, on repart normalement pour 10 ans. La durée de vie d'une centrale hydroélectrique, c'est au moins entre 80 et 100 ans. Donc c'est vraiment durable.
Et cette centrale, elle fournit à peu près combien de foyers, vous diriez ? Ouais.
C'est à peu près 3700 foyers français, équivalent à ceux suivant l'ADEME.
Et c'est dans toute la France ou c'est particulièrement dans la région ?
Alors, on a signé avec Énergie d'ici, justement, qui est un agrégateur local. Donc, on vend notre électricité. Ici, on est à Couzon-au-Mont-d'Or, on est à quelques kilomètres du centre de Lyon, on est très proche de Lyon. Énergie d'ici a négocié avec la métropole de Lyon. Donc, notre énergie part à la métropole de Lyon, est vendue à la métropole de Lyon, et plus particulièrement pour les piscines municipales et les maternelles.
Et est-ce que les centrales, elles sont un peu reliées entre elles ? Parce que ce n'est pas la seule centrale hydroélectrique qui existe dans la région ?
Alors, non, elles ne sont pas reliées. Alors, oui. Elles sont reliées entre elles, mais ce n'est pas nous qui nous en occupons. En France, donc, c'est Enedis, entre autres, et des régies qui s'occupent de ce qu'on appelle du réseau local. Donc on parle de la basse tension que vous avez chez vous, jusqu'à la HTA 20 000 volts, comme nous ici, c'est la limite. Et puis après, il y a les grandes lignes que vous devez voir dans les champs, des fois quand vous vous baladez, vous avez des grandes lignes électriques. Ça, c'est les lignes RTE. Et donc c'est bien RTE en France et Enedis qui tiennent le réseau et qui s'occupent justement de délivrer les électrons, on va dire, sur la totalité du réseau. Nous, on produit. Après, au bout de la chaîne, il y a des consommateurs. Vous et entre tout ça, et bien c'est Enedis et RTE qui maintient le réseau.
Transformateur, et après là on part sur le réseau Enedis. Le réseau Enedis, la ligne passe dans le barrage vraiment, et c'est vraiment au niveau de la tour, juste derrière, il y a un poste HTA Enedis. On est branché là-bas.
La France cherche à développer d'autant plus les énergies renouvelables, avec comme souhait qu'elles représentent 33% de notre consommation à l'horizon 2030.
Merci Inès. Un mot de sport, en football, en Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais défie le prestigieux Manchester United. Objectif, conforter ses chances de rejoindre le dernier carré de la compétition. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la dernière édition de la semaine. Excellente journée.